Radio Okapi 8, le Congo, avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, lors de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 12h, et mercredi de 10h, lors de Kinshasa.
Bon nombre de nouveaux étudiants éprouvent d'énormes difficultés pour s'adapter à la vie académique. Certains se livrent au libertinage. Ils sèchent les cours et s'affichent plutôt dans les débits des boissons qui pullulent dans les voisinages et même sur les campus. D'autres passent plus leur temps en dehors des auditoires. Quelle discipline doit s'imposer à un nouvel étudiant pour bien gérer sa vie académique? Nous avons, comme je l'ai dit, dans ce studio, M. l'abbé Marcus Bindingwa, assistant à l'Université catholique du Congo. Bonjour, M. l'abbé.
Bonjour.
Alors, déjà, dans la vie, le premier pas n'est toujours pas facile de faire. Est-ce le cas aussi pour les débutants à l'université? Parce qu'on peut dire, déjà, c'est un majeur, et il peut affronter la vie facilement.
Bon, oui, majeur, tout à fait. Mais bon, là, on est nouveau, on est toujours nouveau. Hein, donc, il y a des choses qu'il faut apprendre, évidemment. Quand on a déjà un peu d'âge, donc on a beaucoup de facilité pour apprendre. Mais bon, quelque chose qui est nouveau, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est toujours du neuf. Donc,
alors, quelles sont les difficultés auxquelles sont exposés les débutants universitaires d'après vos recherches, bien entendu?
Oui, sur le plan, bon, il y en a beaucoup, hein, c'est plein de difficultés. Donc, depuis deux semaines déjà, on parle de tous ces sujets-là. Mais sur les plans de la discipline, je pense que, disons pour y aller en ordre, je vais m'organiser en quatre traits pour qu'on prenne l'essentiel, parce que l'important c'est que nos auditeurs puissent nous suivre et retenir quelque chose qui peut nous aider. Donc je vais commencer par donner un climat, des climats inhabituels d'un débutant universitaire. Et puis, on va voir la tendance générale, donc le piège qui est devant ces étudiants-là. Et puis, en troisième lieu, je vais poser cinq principes qui pourraient les aider à résoudre le problème. Pour terminer, on va un peu discuter sur cinq.
Oui, je crois que nous commençons par les principes. Parce qu'on peut aborder on peut affronter l'université, on arrive pour la première fois, mais il faut retenir qu'il y a quand même des principes à respecter pour bien gérer ou bien passer sa vie académique. Quels sont ces principes?
Je pense qu'il faut de la régularité. Venir
sur les cours régulièrement.
Venir régulièrement tous les jours pour suivre ses cours. Le deuxième principe, c'est la ponctualité. Donc, n'est pas seulement venir tous les jours, mais venir à temps et entrer dans l'auditoire à temps. Et le troisième principe, c'est celui de silence et d'assiduité au cours. Donc, on suit le cours de manière assidue et en tout silence. Et en quatrième lieu, il y a le principe de l'étude journalière. Donc, il faut étudier chaque jour et ne pas attendre seulement
la fin pour
la période du blocus. Et puis, comme cinquième principe, pour m'arrêter d'abord dans un moment à cela, bien prier sa compagnie et ses amis, parce que, dis-moi...
La mauvaise compagnie,
je te dirais qui tu es.
Tout à fait. Justement. Donc, cinq principes à respecter absolument.
Oui, je pense.
Et donc, si on respecte ces principes, la réussite est totale et on ne peut pas passer à côté de la plaque.
On est déjà bien parti.
Ouais. Alors, le climat est inhabituel, parce que chaque étape de scolarité, c'est vrai, elle est particulière. Hein. Ouais. Même un enfant qui quitte l'école primaire pour embrasser les études secondaires, et un élève qui était habitué avec un seul enseignant, il se retrouve maintenant avec plusieurs qui vont défiler. C'est une autre étape, c'est une autre particularité. Ouais. Alors, quelle est la particularité? Parce que vous avez parlé des climats inhabituels.
Oui, justement. De même qu'on change, de même que l'enfant qui quitte l'école primaire va et qui va à l'école secondaire est impressionné par ses trop pleins de professeurs. De la même manière, celui qui a été déjà habitué à ses trop pleins de professeurs se présente maintenant devant l'université à d'autres difficultés. Le premier problème, c'est justement... il n'y a pas de direction des disciplines.
Tout à fait.
Il n'y a pas de registre d'appel pour juger la présence au cours.
Mm-hmm.
Il n'y a pas de convocation
des parents.
Aux parents. Il n'y a presque pas d'interrogation. Donc, le jeune sent qu'il n'y a plus de surveillance derrière lui. Donc, il n'y a plus, comme tel, une main
derrière. Il n'y a pas de chicote,
il n'y a pas de chicote. Donc, il se sent vraiment très, très libre. Donc, je crois que c'est ce climat habituel qui est un tout premier piège qui se présente devant le
nouvel étudiant. Ce climat inhabituel peut également influer sur le comportement de l'élève. C'est ce que nous appelons maintenant la tendance générale.
Bien sûr.
L'enfant ou l'élève peut peut-être croire que tout lui est permis.
Justement, donc, on arrive à cette situation dans la plupart des cas, les étudiants qui arrivent et qui se présentent dans cette situation-là inhabituelle, et ils se croient effectivement que tout leur est permis, donc ils brossent les cours, ils trient même les leçons et les professeurs dont ils veulent suivre le cours, et puis les autres, bon, ils ne veulent pas. Il vient quand il veut, et non rarement en retard. Il n'est suivi que pendant les blocus. Et puis, on quitte en réalité la mainmise de l'institution scolaire, donc de l'école, parce que le cadre n'est plus le même.
Mmh.
On quitte également la mainmise des parents, parce que, bon, écoutez, on est là, soi-même, devant juste l'université. Mais en même temps, on devient esclave de sa propre liberté et aussi esclave de la compagnie. Donc, on fait ce qu'on veut, on fait ce que sa compagnie veut. Bon, on ne suit plus tellement les normes, donc on croit que tout lui est permis, quoi. Donc, on dérange pendant les cours. On chute partout, et on s'habille comme on veut, etc. Donc, c'est un peu dans ce climat-là que je voulais
dire. Avant que nous puissions étaler tout le problème que nous observons aujourd'hui dans nos milieux universitaires, j'aimerais bien qu'on puisse un peu juste ouvrir une parenthèse qu'on pourrait fermer rapidement. Aujourd'hui, une fille, par exemple, qui a fait tout le temps au secondaire, qui n'a étudié qu'au lycée,
ouais.
Alors qui se retrouve à l'université où elle est maintenant en face. Et des garçons, plusieurs, disons, des personnes d'autres sexes, en fait,
qui
vont côtoyer. Ouais. Donc, ça ne peut pas être aussi d'élément qui pourrait jouer négativement sur sa vie académique.
Oui, bien sûr.
Tout comme monsieur le garçon,
c'est un élément très important. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus délicat parce que souvent ce sont des enfants bien, des filles bien et des garçons bien qui ont évolué soit au collège, soit dans le lycée. Et puis quand ils arrivent dans ce milieu où il y a la présence de l'autre sexe et en même temps, à côté de cette présence de l'autre sexe, il n'y a personne pour contrôler, c'est à ce moment-là que justement naissent ce qu'on connaît les amours académiques. Et on commence, on se glisse dans cette vie et on ne mesure plus les conséquences. On sait que c'est un terrain très glissant. Les pulsions de l'affectivité et de la sexualité sont tellement fortes. Et pour des gens qui débutent comme ça, et surtout des filles qui n'en savent pas grand-chose, bon, ils ont beaucoup d'hommes, j'allais dire, devant elles. Et souvent, elles ne tiennent pas le coup.
Et c'est pourquoi même nous remarquons que la première, pour un débutant, la première candidature, et bien souvent, ça rate si on ne respecte pas les principes. Parce que bon, on se livre à beaucoup de choses à la fois, et puis finalement, il n'y a pas un guide, il n'y a pas un idéal, il n'y a pas un modèle, et finalement, on s'est dit, bon, on fait une expérience, hein, et notre expérience, si j'aime bien le dire, à vos risques et périls, et puis finalement, les filles deviennent mères, dans bien des cas, surtout quand elles sont trop faibles.
Oui, elles deviennent mères. Mais il faut même pas s'arrêter à ce niveau-là parce que actuellement l'avortement est en train de prendre de l'importance dans les chefs, dans le mental de beaucoup de filles et même de beaucoup de familles parce que c'est pas seulement une question de la jeune fille qui se retrouve mère, mais c'est aussi le problème de la famille qui ne veut pas assumer cette situation et qui dit, ben écoutez, il faut évacuer cette grossesse, nous ne voulons pas la honte et on a tout donné pour toi et on attend beaucoup de ton avenir et bon, on ne peut pas continuer. assumer cette enquête.
Monsieur l'abbé, nous avons en ligne Baden Chaco de Mbandaka, mais nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir en composant les 081 890 3394.
Radio Okapi vous informe 24 heures sur 24. En Lingala, Swahili, Kiluba, Kikongo et français, retrouvez la session du soir à partir de 16h lors de Kinshasa. Des paroles d'enfants, des chroniques, des informations sur la circulation routière, du sport, de l'économie. Faites le plein de news dans Okapi Soir. De lundi à vendredi, à partir de 16h, lors de Kinshasa. Faites le plein d'informations dans Okapi Soir.
Vous êtes étudiant, vous êtes débutant hein, à l'université, vous éprouvez énormément de difficultés, vous ne savez pas comment en sortir, puisque vous avez remarqué un climat inhabituel, auquel vous n'étiez pas habitué à avoir au secondaire. N'hésitez pas, nous avons dans ce studio M. l'abbé Marcus Bilungwa, assistant à l'Université catholique du Congo, qui pourrait nous donner des pistes, hein, des solutions. On va tenter quand même de vous aider à sortir de cette difficulté. Nous avons déjà en ligne Badin Chaco de Mbandaka. Bonjour Badin.
Bonjour JR et bonjour à tous mes camarades qui ont été et qui nous étions collés
le week-end passé. Mais voilà, oui. Alors bonne arrivée dans le monde professionnel. Voilà, merci Badin. Badin, quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai des préoccupations. Alors, il s'agit de tous les nouveaux étudiants. La première est la suivante. Est-ce qu'un étudiant, un nouveau étudiant, ne peut pas chercher un guide pour son orientation à l'université? La deuxième, c'est par rapport au groupe d'études. À combien le nombre, je demande le nombre précis, bien le maximum pour un groupe d'études.
Merci beaucoup, Madame Chaco. Qui parle, voilà, la fois dernière, nous avons abordé même la question des guidances. Monsieur l'abbé, Badin revient sur ça. Et puis, comment choisir un groupe d'études? Parce que le groupe d'études peut être aussi à la base de l'échec hein, de quelqu'un si c'est mal choisi.
Ouais. Bon, je veux dire à Badin d'abord que chercher un guide n'est pas un mauvais, n'est pas, disons, une mauvaise chose, mais. Il est important qu'on soit d'abord assuré que ce guide-là, c'est un vrai. Sinon, vous tombez sur un guide qui vous guide justement vers une mauvaise direction, alors vous êtes perdu également. Donc, pas mauvais, mais soyez d'abord assuré que c'est un bon guide. Donc, pour ça, il faut peut-être confronter les gens, vous renseigner sérieusement. Et, bon,
je crois que c'est au niveau, c'est encore plus compliqué quand il s'agit d'une étudiante, hein, de choisir un guide. Si le guide là c'est vraiment le mauvais que vous avez choisi, est-ce que par après vous faire des avances et puis finalement vous désorienter comme vous avez.
Oui, souvent parce que les filles comme les femmes ne s'aiment pas bien, donc c'est-à-dire elles ne supportent pas assez facilement l'autorité d'une autre femme. Les filles ont tendance à aller plutôt du côté des hommes et bon de ce côté-là quand un guide au point, j'ai toujours pas nécessairement mal intentionné au départ, mais je crois que le conseiller ou les guides, c'est souvent le premier harceleur. Pourquoi? Parce que il se rend compte des difficultés de la petite et en même temps, il découvre aussi les qualités de la petite. Donc, c'est-à-dire, ça commence, la petite qui vient demander conseil commence à l'intéresser et à force des proximités, les sentiments changent.
Tout à fait. Là, c'est un aspect. Alors, groupe d'études, comment choisir un groupe d'études? Parce que là aussi, ça peut une conséquence de beaucoup de choses.
Hein. Oui, bon. Il demande le nombre maximum. Bon, on ne peut pas imposer un nombre défini pour tous les cas, mais bon, c'est question de voir. Enfin, il ne faut pas trop peu de gens, il ne faut pas non plus trop de personnes, sinon bon, on ne peut pas bien travailler. Mais de toutes les façons, dans un travail en équipe. Disons ce travail d'équipe vient en second lieu. Il y a toujours et d'abord un tout premier travail qui est un travail personnel et le travail de groupe ne vient que compléter ce travail personnel. Si le travail personnel est biaisé, ben vous pouvez aller dans le groupe, vous allez perdre beaucoup de temps. Et puis, bon, choisissez quand même des collègues assidus pour travailler.
Oui, parce que vous parlez de l'assiduité, de savoir que dans les jargons universitaires, quand on parle de l'assiduité, on voit les promos beaucoup. Hein? Donc, oui. Les gens qui sont là, ils ne font qu'étudier.
Voilà.
Voilà, du matin au soir, et les gens même qui vont même jusqu'à tard la nuit à étudier, des promos beaucoup comme on les appelle.
Okay.
Mais dans bien des cas, quand ils échouent, finalement, c'est la honte. Tout le monde se moque de ces personnes. Voilà, quand vous parlez d'acidité, mais il y a quand même un degré d'acidité. Hein.
Oui,
pas trop exagéré.
Degré, oui, moi, j'en ai une très belle expérience. Je vais présenter comme un témoignage au niveau des études. C'est que, bon, avant les examens d'État, je travaillais simplement. Sans me donner, sans chercher à aller au-delà de moi-même. Mais il s'est fait que quand on a commencé l'internat de maquis, je me suis retrouvé dans un groupe où il y avait justement des séphomos beaucoup. Et de temps en temps, je me retrouvais de nuit, au lit, sur le lit tout seul, alors que quand je sortais, pour les petits besoins, j'ai trouvé les autres dehors en train d'étudier. Alors je me gênais, je commençais à étudier. C'est comme ça que moi-même aussi, avec le temps, je suis devenu de cette catégorie-là. Donc ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ça peut aider évidemment, comme vous faites l'observation. Il ne faut pas exagérer, il faut qu'il y ait des limites, sinon bon, vous pouvez craquer, vous pouvez confondre beaucoup de choses, et puis bon, vous échouez, ça fait très mal.
Mais voilà, parce que vous avez abordé 5 principes pour bien gérer sa liberté à l'université, oui. Entre autres la régularité, la ponctualité, le silence et l'assiduité au cours, étudier journalièrement, et puis bien prier sa compagnie, oui. Les 5 principes à respecter. Alors, oui. Quels sont les risques qu'on encourt en cas de non-respect de ces principes?
Bien évidemment, quand on ne sait pas respecter le risque, c'est un peu comme si vous étiez dans un bateau en train de voyager à vue. Donc, vous n'avez pas de repère, vous savez pas où est-ce qu'il y a des obstacles, vous savez pas où est-ce qu'il y a du sable, où est-ce que l'eau est beaucoup plus profonde, etc. Bon, évidemment, vous êtes exposé à vous embourber ou même à connaître les naufrages. Donc, on peut échouer quand on n'a pas respecté les principes. Donc, les réussites en cas de non-respect de principes relèvent vraiment du miracle. Et c'est des cas exceptionnels. Donc,
des
vraiment,
cas isolés,
très rares. Rare, oui.
Et puis, nous remarquons, oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes perdent même les repères quand ils voient que les gens qui ne respectent pas ces principes arrivent à réussir facilement, par exemple en première session ou en deuxième session.
Bon, facilement, je ne pense pas. Souvent il y a des interventions, il y a de la corruption,
des paramètres,
oui, mais je crois quand même qu'il peut arriver que quelqu'un qui ne s'est pas donné trop de peine, peut-être qu'il est très intelligent, mais il n'a pas travaillé assez, vous avez l'impression qu'il ne connaît rien, et pourtant quand il vient au cours, il assiste au cours, il retient facilement pendant le cours, à telle enseigne qu'après le cours, il ne se donne pas trop de temps pour étudier, et quand il se retrouve devant les professeurs, il se rappelle bien de ce qu'il a suivi comme cours, et puis il travaille. Donc je pense que des gens comme ça ont toujours, quand il n'y a pas de la tricherie derrière et des parapluies, en tout cas, je crois que c'est des gens qui ont des vertus et qui soignent quand même quelque chose parmi ces principes-là, ou ils suivent correctement le cours, ou bien après le cours, ils ont le temps d'étudier, vous ne savez pas, ils font ça discrètement.
081-890-63-94, c'est pour les appels, et si vous voulez nous faire des SMS, composez les 081-070-20-50.
La course relais de la formation sportive, c'est sur Radio Kabi. Nanambala, au démarrage, porte le relais à deux de l'Ekabé à Ngalula, qui fonce vers le micro et le passe à Kanis Mukongo Chambouille. Il fonce et se pose en tête à la sortie du virage au piéton de Nanambala Sang. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et. Victoire! Les 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h vers le Kinshasa.
Nous avons en ligne, bienvenue, Gastima de Bounia. Bonjour, bienvenue.
Merci, bonjour, monsieur Zanis.
Quelle est votre préoccupation?
Merci de m'avoir donné la parole. Je salue d'abord tous les étudiants de l'université Chérène de Bounia. Il faut que tu les du jour.
Oui, allez-y. Quelle est votre
question? J'ai une préoccupation. Je voulais une poser une question disant ceci. Comment est-ce que l'invité du jour peut nous expliquer à qu'un étudiant qui réussit, qui satisfait à la première session et l'autre qui satisfait à la seconde session? Entre ces deux étudiants, qui est un bon étudiant et pourquoi? Voilà ma préoccupation.
Merci beaucoup, bienvenue, et nous saluons tous les bons anthropes qui nous suivent en ce moment, et Gaston Kimbenza de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Gia.
Comment allez-vous?
Oui, je me porte bien.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, merci pour la parole. Je voulais poser la question à notre invité, parce que je crois que quelqu'un qui quitte les humanités et ici à l'université, il y a tout à fait un grand changement. Qu'est-ce que les étudiants peuvent faire à ce que les professeurs affichent comme de parler et tabou? Vous verrez quand ils viennent, peut-être les deux premières séances qui vont introduire le cours. Les autres séances qui suivent, ils viennent vous dire, vous lisez de page telle à page telle et ils rentrent. Vous savez, avec cette méthode, ça peut intéresser vraiment un étudiant à rester dans l'auditoire en train d'écrire. Je crois que cela est aussi à la base de cette suite de cours-là. Comment est-ce qu'il y a des cours? Alors, qu'est-ce qu'on peut agir? Parce qu'il y a courant aujourd'hui au Congo, les professeurs ne sont presque plus permanents à l'auditoire. Ce sont les assistants des fois qui viennent, les profs ne sont presque plus. Alors, comment un étudiant peut être attiré par ces études-là pendant que les profs ne parlent? On les laisse des notes, on laisse des cours, ils doivent photocopier, à l'université, on ne fait que photocopier. Les profs n'enseignent plus. Comment l'étudiant peut s'intéresser à un cours, à être permanent à l'auditoire, pendant que le peuple lui-même ne donne pas l'importance de la chose.
Merci Gaston. Et Mathieu de Maragui, bonjour.
Bonjour, je suis Mathieu. Je voulais poser une question à M. Lévité.
Allez-y.
Une fois pour m'avoir à l'université, si je puisse profiter à ce moment-là à des libertinages, c'était ça, je sens mon idée. J'ai construit cette idée chaque fois dans ma tête, alors je voulais qu'il me donne un peu de conseils. Et puis, avec ma jeunesse, ça ne fait toujours pas ma chair. Alors je voulais un peu comment j'étais géré ça.
Merci beaucoup, Mathieu. Jean Delacroix, vous nous appelez de Baraka. Bonjour. Bonjour, Jean Delacroix. Ben voilà, alors monsieur l'abbé, bienvenue à parler d'un étudiant qui réussit en première session et l'autre en deuxième. Quel est le meilleur étudiant par rapport à ça?
Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas masse comme on dit. La première session est préférable, donc il faut faire de tout son mieux pour réussir à la première session. Parce que si vous réussissez à la deuxième session, ça signifie que on vous a donné une première chance, ça signifie que vous n'avez pas satisfait. À la première session, c'est comme ça que pour vous rattraper, parce qu'on sait qu'il y a parfois des difficultés, des contraintes qui ne dépendent pas de votre bonne volonté. Bon, on vous donne une seconde chance, vous réussissez à la
réussir en première session est directement lié au respect de 5 principes que vous avez donnés. Pour revenir un peu à ce sujet, parce que quand on parle des promesses de deuxième session, c'est un dernier sujet.
Pas nécessairement, mais en tout cas, celui qui respecte le principe a beaucoup plus de chances de réussir déjà la première session et de ne pas attendre la deuxième session.
Et on peut attendre la deuxième session volontairement, d'une manière délibérée.
Oui, souvent, actuellement, d'ailleurs, avec une certaine mode qui a élu domicile à Kinshasa, enfin, je ne sais pas si dans le reste au pays c'est pareil, peut-être aussi que c'est pareil, c'est que les étudiants se disent qu'à la première session, bon, il y a juste un petit nombre, donc juste c'est cette catégorie pour beaucoup d'entre les gens qu'on...
Qui est donc vraiment aux études.
Si, donc, des gens que les autres ne considèrent pas... Enfin, ils savent qu'ils sont meilleurs, mais bon... On ne les prend pas suffisamment en estime, on les prend comme des ascétiques, donc des gens anormaux, comme des Jean-Baptiste. Donc ils préfèrent à la deuxième session parce que là c'est le gros de l'effectif, il y a beaucoup plus d'étudiants. C'est une mauvaise pratique parce que bon, les universités qui sont éveillées ont carrément éliminé la collation des grades académiques à la deuxième session pour amener les étudiants à à satisfaire à la première session et à
n'écrire. Et donnez-moi des boulots professeurs à l'université. C'est ça. Alors, Gaston Kimbenza, lui, il a parlé des comportements de certains professeurs. Au fait, aujourd'hui, un étudiant risque de perdre le repère et quand il n'a pas de modèle, quand il n'y a pas d'idéal, il se dit, ben, finalement, le professeur lui-même ne se donne même pas la peine de pouvoir respecter l'institution, de respecter ce qu'il fait. Et ça peut décourager quand même l'étudiant aussi. Ça peut être un climat inhabituel qui peut décourager aussi l'étudiant.
Oui, Gaston pose un problème très actuel et très profond au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Ça va déjà de ce que le ministre a constaté, qu'il y a moins des professeurs à telle enseigne que ce sont les mêmes professeurs qui se retrouvent dans toutes les universités, dans tous les instituts supérieurs de la place, qui enseignent les mêmes sciences. Et pour se partager, ils sont obligés de céder la place au chef des travaux, aux assistants et tout ça. Et bon, c'est une mauvaise pratique parce que en principe, le titulaire du cours, c'est le professeur. Il est bon qu'il soit là et qu'il travaille. S'il n'a pas d'autres choses, il est bon qu'il puisse travailler.
Sinon, mis à part cela, il y a pas mal d'autres problèmes. Aujourd'hui, nous remarquons dans nos universités des restos qui pénulent, comme on m'a appelé les Malévois.
Oui.
Ça peut influencer aussi.
Si, c'est une autre difficulté parmi les six problèmes actuels que je voulais relever justement. Donc, il y a une mauvaise mode qui s'est installée dans les alentours de nos campus universitaires et de nos instituts supérieurs où il y a des restaurants de fortune, enfin, qu'on appelle chez nous ici, que ce soit les Malévois, où on vend des nourritures et de la boisson à un prix curieusement élevé. Mais ce n'est pas des trucs de grande qualité parce que bon,
l'hygiène n'est pas respectée.
Oui, ce n'est pas vraiment respecté. Et mais bon, ça devient un objet de complexe. Les étudiants se font de concurrence pour aller boire, manger. Il y en a qui sèchent le cours, donc pendant que tout le monde est à l'auditoire en train de suivre le cours, ben il y a un groupe qui se désolidarise de l'ensemble et qui va dans les débits de boissons en train de boire et tout ça. Donc c'est vraiment une mauvaise pratique. On le sent tout de suite, même dans les universités, les instituts supérieurs les plus classiques. Hein, il y a tout le monde.
Les restos des fortunes.
Oui, je crois que c'est des choses qu'il faut combattre. Que les universités.
Et c'est qu'aujourd'hui, les étudiants préfèrent harceler leurs parents. Et ils posent même le montant de Minerval pour avoir un petit rien. Un petit rire afin de répondre à cette concurrence.
Ça renvoie à un autre problème j'ai eu déjà écrit un article là-dessus, la mendicité estudiantine. Donc, on remarque que pour subvenir à ces excès de besoins, il y a beaucoup d'étudiants qui deviennent malhonnêtes et qui passent d'un oncle à un père, à une mère, etc., pour demander des sous. Alors, vous avez un même TP et un même syllabus bon, qui seront, c'est pas moi, achetés ou payés par autant de personnes. Et finalement, les étudiants et les étudiantes ont beaucoup d'argent entre leurs mains et ainsi ils peuvent s'adonner à
n'importe quoi. Voilà. Et puis le banditisme, on l'a remarqué ces derniers temps, parmi les problèmes actuels, aujourd'hui le Kuluna a pris corps dans nos milieux universitaires.
Il y a maintenant beaucoup de banditisme. Il y a une confusion. Je sais que il appartient aux intellectuels, aux étudiants qui sont des intellectuels, d'être éveillés, de comprendre comment les choses se passent et de voir que les choses marchent mal et de réagir. Réagir n'est pas un mauvais, c'est pas un problème, mais seulement comment réagir, c'est là qu'il faut décorriger beaucoup de choses parce que on croit que être étudiant, c'est justement dans le sens de cette liberté-là, se permettre tout. Donc, on peut brûler, c'est pas moi, les bus qui sont des trucs de transport en commun. On peut détruire les infrastructures, même des universités. On peut porter la main sur les gens et porter atteinte à l'intégrité physique des personnes, parfois des autorités. Alors donc, je crois que c'est un problème. Il y a même aussi maintenant une mentalité de gang entre les universités.
Voilà.
Telle université, avec telle autre université qui se rencontre dans la rue et qui se battent. Et les raisons pour lesquelles ils se battent sont vraiment. Ce n'est pas de raisons très valables. C'est autour d'une petite fille que telle, ben, il a piétiné mes femmes, c'était ma copine, et puis ben, c'est deux universités qui
débattent. Mais parlons aussi de l'habillement des filles aujourd'hui, c'est aussi d'une certaine prostitution des étudiantes pour s'acheter des habits. Hein.
Ouais.
Voilà, donc autant de problèmes que nous observons aussi dans le milieu universitaire.
Oui, justement, on a déjà remarqué que il s'est installé un climat, disons, au niveau des habits, un climat de défis entre filles au niveau des universités. En plus du fait que bon, les demoiselles actuellement tendance à dénuder certaines parties de leur corps, la poitrine, le bassin, etc. Donc, en plus de cela, il y a aussi des défis. Donc, on veut tellement être à la mode, changer des habits, et quand on arrive, on n'a peut-être pas tous ces moyens chez soi, et on rencontre des copines qui ont ces ressources-là, et bien, on veut être comme elles. Et à ce moment-là, oui, dans la prostitution. Et aujourd'hui, d'après nos enquêtes, la deuxième catégorie de prostituées, c'est des étudiantes. La première catégorie, c'est celle que vous avez dans la rue.
Mais
la deuxième catégorie, c'est les étudiantes, surtout celles habitant les campus universitaires.
On reviendra sur cette question. Il y a beaucoup d'appels. Je crois qu'on n'a pas conclu, mais nous rappelons simplement qu'il y a cinq principes pour bien gérer sa liberté en milieu universitaire, notamment la régularité, la ponctualité, le silence et assiduité au cours, études journalières et bien trier et s'accompagner. Une fois que le principe là est respecté, vous avez plus de chances, en tout cas la probabilité est grande, pour réussir en première session ou comme réussir son parcours universitaire.
Okay.
Monsieur Labbé, nous allons revenir également en détail pour faire encore détailler encore d'autres sujets liés à cette question prochainement avec vous. Et nous rappelons que vous êtes assistant à l'Université catholique du Congo et auteur de plusieurs ouvrages. Merci et à très bientôt.
Je vous en prie.